Bonjour à tous, le Bistrot des Ethnologues reçoit ce soir Yazid Benhounet. Yazid Benhounet a fait ses études à Lille et à Paris. Il est docteur de l'anthropologie, docteur en anthropologie sociale de l'EHESS. Il est membre associé au laboratoire d'anthropologie sociale, chargé de cours à l'Université de Lausanne et vient de terminer un séjour postdoctoral au Max Planck Institute für Soziale Anthropologie à côté de Leipzig en Allemagne. Il nous présente ce soir l'ouvrage qui est tiré de sa thèse, L'Algérie des tribus, le fait tribal dans le haut sud-ouest contemporain. Ce livre interroge le retour des tribus dans l'autodéfinition des identités. Les tribus, donc, qui sont fondées sur des liens d'ascendance et des liens de solidarité, qui renvoient à beaucoup d'idées reçues, qui recouvrent un certain flou terminologique. Et Yazid les a étudiés de manière empirique en Algérie. Il va essayer de nous expliquer quelle est la place des tribus dans une nation moderne, dans l'Algérie, et interroger la validité de ce concept de tribu au-delà des usages figurés qu'en fait une certaine sociologie. Je lui passe la parole sans plus tarder.
Bonsoir tout le monde. Bon, le Bistrot des Ethnologues, l'équipe du Bistrot des Ethnologues a eu la gentillesse de m'inviter ce soir pour vous présenter mon ouvrage « L'Algérie des tribus ». Je leur en remercie. Ça me donne l'occasion de passer un petit moment à Montpellier, une ville fort sympathique, et de découvrir ce joli endroit que je ne connaissais pas. Donc voilà, je suis là pour vous parler de mon livre qui est paru l'an dernier aux éditions L'Harmattan, donc en 2009, qui s'intitule « L'Algérie des tribus ». Alors, voilà, je voulais en premier lieu vous expliquer la raison du pourquoi. Pourquoi actuellement, à l'aube du 21e siècle, un anthropologue travaille sur la tribu et qui plus est sur la tribu en Algérie. Donc je vais vous expliquer les raisons de cette recherche. Je vais vous parler également un petit peu du terrain où j'ai mené mes enquêtes, c'est-à-dire dans la région des Monts d'Exour, dans la partie occidentale de l'Atlas saharien en Algérie. Et je pensais également vous parler de quelques résultats de cette recherche. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terrain algérien. Bon, j'imagine que quelques-uns d'entre vous le sont. Donc si jamais vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, tout d'abord, l'idée de travailler sur... je vais peut-être mettre le micro là. L'idée de travailler sur la tribu à l'aube du 21e siècle paraît peut-être pour certains d'entre vous étrange. C'est peut-être là le signe d'une certaine anthropologie qu'on pourrait qualifier de classique ou de désuète. J'étais pas au départ, en fait, quand j'ai commencé à effectuer mes recherches en 1998, j'étais pas parti dans l'esprit de travailler sur la tribu en Algérie. J'étais parti dans une région du Sahara algérien, le Tidi Kelt. Plus exactement à Ain Salah, c'est en plein milieu du Sahara algérien, pour travailler sur les formes actuelles de pastoralisme dans cette région. Ça a été une expérience un petit peu difficile parce que j'ai voulu travailler sur des pasteurs, mais j'avais très peu de moyens à cette époque et donc j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Donc je suis resté la plupart du temps dans cette petite localité d'Ain Salah, en plein milieu du Sahara algérien. Et c'est là que, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte à quel point l'identité tribale était encore importante dans cette ville et plus largement dans le Sahara algérien, comme j'allais m'en rendre compte par la suite. Il faut savoir qu'en Algérie, en tout cas dans les régions du Nord, largement plus peuplées et plus... des régions aussi plus urbanisées, la tribu a complètement disparu. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, c'est que dans les régions périphériques, en particulier dans les régions des hautes plaines steppique et dans le Sahara algérien, la tribu demeure encore un référent identitaire important. Donc cette expérience à Ain Salah m'a un petit peu intrigué, c'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'une tribu, pourquoi les gens dans cette région se réfèrent encore à l'identité tribale et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une tribu dans l'Algérie contemporaine, dans un état-nation, dans un pays développé ou en voie de développement. Et j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet-là. Alors, quand je parle de tribu, peut-être qu'il faut préciser dans un premier temps que je n'ai pas à l'esprit l'idée d'une entité politique hostile à l'État ou une forme d'organisation politique telle qu'on peut se la concevoir dans les imaginaires, quelque peu une entité politique quelque peu faisant référence à un passé, mais c'est plutôt là la traduction. Quand je parle de tribu, j'utilise, en fait, c'est la traduction des termes, ce qu'on appelle en Algérie « arche » ou plus largement « kabila », c'est-à-dire des groupes d'individus revendiquant appartenir à une même ascendance ou à un même territoire et s'organisant, en tout cas, organisant leur solidarité en fonction de leur ascendance. Donc j'ai décidé de travailler sur la tribu et j'ai par la suite bougé et j'ai décidé plus exactement de travailler dans une région, la région des Monts d'Exour. C'est une région limitrophe, une région qu'on pourrait dire quelque part liminale, parce qu'on est à la limite des hautes plaines steppiques du Sahara algérien, à la limite des hautes plaines steppiques et du Sahara algérien. Donc on est vraiment une carrefour. En gros, on est à là où j'ai travaillé, donc la région d'Ain Safra, la localité la plus connue. On est à 450 km au sud d'Oran. C'est une région qui est aussi limitrophe du Maroc. Et j'ai travaillé en particulier sur deux ensembles tribaux, ce qu'on appelle localement les Amour. C'est une confédération tribale d'environ 40 000 personnes, et les Zoulatid Ahmed Majdoub. C'est une tribu, ce qu'on appelle localement Maraboutine, c'est-à-dire maraboutique d'ascendance religieuse, qui compte environ 10 000 personnes. Alors cette tribu des Zoulatid Ahmed Majdoub, l'ancêtre éponyme de la tribu, donc Sid Ahmed Majdoub, est un saint qui aurait vécu au XVIe siècle et qui serait l'oncle paternel de Sidi Chir, le fameux saint qui aurait donné naissance aux Zoulat Sidi Chir. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Algérie, mais les Zoulat Sidi Chir, ça a été une confédération tribale et religieuse qui a eu un rôle important, notamment dans l'histoire de la, ce qu'on peut appeler de la résistance à la colonisation, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler notamment de Sidi Bouhmama, qui a été un résistant à la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle, aux alentours de 1880. Il est lui-même issu de cette confédération tribale. Donc voilà pour situer un petit peu les deux tribus sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, ce qu'il faut savoir, la région des Monts d'Exour, donc avec comme ville principale Ain Safra, c'est une région qui est dominée par l'activité agropastorale, et c'est une région où il y a encore actuellement près de 22-23% de gens qui vivent sous la tente et qui ont un mode de vie semi-nomade. C'est une région où les identités tribales sont encore importantes. C'est une région aussi où on a ce qu'on appelle des ksour, c'est-à-dire des villages fortifiés qui sont un petit peu la marque de l'autochtonie berbérophone. Les nomades ou les gens d'origine nomade sont quant à eux pour l'essentiel arabophones. Je me suis installé dans la région d'Ain Safra, plus précisément dans la ville d'Ain Safra, et j'ai travaillé sur ces tribus entre 2000, en gros, à plusieurs reprises, entre 2002 et 2005, en effectuant plus ou moins en tout 16 à 17 mois de terrain. C'est j'avais l'intention de travailler sur ces deux tribus pour deux raisons. Déjà, en tout cas, cette comparaison entre la confédération tribale des Hamour, qui est une, ce qu'on peut appeler une tribu, une confédération tribale séculière, c'est-à-dire que elle, les ancêtres fondateurs de cette confédération tribale ne sont pas reconnus comme étant des saints, et c'est une confédération tribale qui revendique être d'origine hilalienne, donc les fameux Beni Hilal qui sont venus en Algérie pour à peu près au milieu, aux alentours du 11e, 12e siècle, et qui seraient d'origine, qui seraient venus d'Égypte par vagues successives en Algérie. Donc cette confédération tribale se rattache à cette origine-là. Quant au Zouled Sid Ahmed Majdoub, il se rattache, comme je l'ai dit, à un saint qui, lui, a à la fois des ascendances proche-orientales, on pourrait dire, puisque on dit que l'ancêtre présumé de ce saint, ce serait Abou Bakr Siddiq, c'est-à-dire l'un des compagnons du prophète Mahomet, mais en même temps, on trouve trace d'ancêtres de ce saint dans la fameuse Sagiyat al-Hamra, c'est-à-dire dans une région qui est actuellement le sud du Maroc, donc pour situer un petit peu les origines. Bon, sans entrer dans le détail, parce que là, je parle un petit peu de détails, mais ça permet de situer ces tribus, en tout cas leur origine supposée. J'ai essayé de voir ce qu'il en était de la tribu à l'heure actuelle. Est-ce qu'avec des questions toutes simples, pourquoi cette identité tribale est encore importante? Pourquoi, en quoi, au-delà de cette identité tribale, est-ce qu'on peut voir une forme d'organisation tribale ou non? Est-ce qu'il y a une forme de... est-ce que les solidarités tribales influent sur la vie politique locale, voire nationale? Et est-ce que la tribu demeure à l'état, à l'heure actuelle, une forme d'entité politique, même si ces tribus-là n'ont pas de ce qu'on peut appeler de chef de tribu? On a à la tête de ces tribus ce qu'on appelle des kbar ou des shir, c'est-à-dire des gens reconnus pour leur sagesse, et qui sont sollicités notamment au moment des élections, mais on n'a pas d'organisation hiérarchique formelle avec un chef de tribu à la tête. Donc, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai décidé de travailler sur cette région parce que c'était une région plus accessible pour moi, et une région aussi représentative à la fois des hautes plaines et du Sahara algérien. Alors, par rapport à cette question de savoir pourquoi les identités tribales sont dans cette région-là encore importantes, voire dans le Sahara aussi, alors que dans le nord de l'Algérie, elles ont complètement disparu, j'ai fait un travail principalement historique dans la première partie de mon ouvrage, que je présente dans la première partie de mon ouvrage, et en fait, Ain Safra, la région des monts d'Exour, et plus largement le Sahara algérien et une grande partie des hautes plaines steppiques d'Algérie, ont été, durant la période coloniale, sous administration militaire, alors que le nord de l'Algérie s'est trouvé sous administration civile. C'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Il faut savoir que les travaux d'historiens sont principalement, à ma connaissance, principalement axé sur les ex-départements civils du nord de l'Algérie, et il y a très peu de travaux sur ce qu'on a appelé entre le début du 20e siècle et jusqu'à l'indépendance les territoires du sud. Alors, dans ces territoires du sud, l'administration était donc tenue par des militaires, et on s'est appuyé davantage sur l'organisation tribale. On a d'ailleurs, quelque part, ce que j'essaie de montrer dans ce travail, réifié l'organisation tribale en compartimentant les tribus selon des circonscriptions administratives, alors que auparavant il n'y avait pas d'organisation tribale aussi formelle. Donc quelque part, si les militaires n'ont pas créé les tribus, ils ont participé à leur donner une organisation plus précise. Et on a aussi, les militaires se sont davantage appuyés sur le système du Qaïda et sur ce qu'on appelait localement les agas et les bachagas, c'est-à-dire des formes de, sont des termes repris du turc, mais qui sont des intermédiaires entre, en tout cas, des grands chefs de tribu, en tout cas des chefs censés avoir sous leur coupole les différents caïds des différentes tribus. Dans cette région-là aussi, le processus de dépossession foncière qui a eu lieu dans le nord de l'Algérie ne s'est pas fait parce que tout simplement c'est des régions très peu agricoles. Donc l'économie principale encore à l'heure actuelle, c'est le pastoralisme. Et il y a eu aussi très peu de colons ou d'Européens qui auraient pu amener à une transformation, en tout cas une forme de changement dans cette région. Ce qui se passe aussi, c'est que après, donc je passe brièvement sur cette période historique, mais à partir de l'indépendance, il y a eu très peu aussi de projets d'envergure qui auraient pu transformer l'économie locale. C'est une région où il n'y a pas d'économie dattière, ni même d'économie liée au pétrole ou au gaz. Donc il y a eu très peu finalement de transformation sociale impulsée à la fois par le système colonial et par le régime algérien indépendantiste de l'indépendance. Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu, ce que je présente comme résultat, ce qui explique de mon point de vue que dans cette région, actuellement encore, la référence à la tribu est encore importante parce que j'avais des personnes qui me présentaient des cartes d'identité datant de la période coloniale où était indiquée expressément la tribu d'appartenance, alors que dans le Nord, on n'avait plus ça depuis l'avènement des départements civils du Nord, ou alors dans certaines petites régions. Et voilà, donc il y a cette économie aussi liée principalement à l'agropastoralisme, au pastoralisme de manière principale, et le fait qu'il y ait encore des semi-nomades, et donc ce qui veut dire aussi une certaine emprise sur les territoires pastoraux qui passent aussi par les affiliations, en tout cas les affiliations tribales. Donc tout ça explique que on a encore dans ces régions-là des identités tribales qui persistent. Bon, c'est plus le cas dans le nord de l'Algérie, largement détribalisé, plus peuplé, plus urbanisé. Après, on voit concrètement que la tribu n'est pas qu'une identité. Ce n'est pas simplement une illusion identitaire, parce qu'on a aussi chez les tribus de cette région un système matrimonial qui passe par une préférence pour les gens. En gros, les gens se marient dans le cadre de leur tribu, et en particulier chez les Oulad Sid Ahmed Majdoub, cette tribu religieuse qui explique expressément que les hommes, les femmes en tout cas de la tribu, doivent épouser des hommes de la tribu ou au pire des gens de la tribu des Oulad Sidi Chir, pour que cette ascendance, le fait d'appartenir, voilà, pour que cette ascendance prestigieuse, le fait d'appartenir justement à une lignée dont l'ancêtre serait un saint, ne se perd pas. Donc, on a aussi au niveau des pratiques, notamment celle des pasteurs semi-nomades, une forme d'emprise tribale, puisqu'on a des régions, en tout cas des régions pastorales, des terrains de parcours de semi-nomades qui sont normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'indépendance, toutes les zones d'évolution des pasteurs, toute la steppe en fait, relève de l'État, ça appartient à l'État, mais on a quand même une forme d'emprise de ces tribus, de ces différents clans de tribus, sur certaines parties de ces territoires pastoraux. Par exemple, on sait que dans l'est d'Ain Safra, c'est principalement la tribu des Swala, qui appartient à la confédération d'Ermour, qui évolue. En tout cas, ce sont les nomades appartenant à cette tribu qui évoluent sur cette partie du territoire. À l'inverse, à l'ouest, dans une région du côté de Fort Assa, on a là des tribus, la tribu des Ouled Boubkar, toujours, en tout cas les nomades de la tribu des Ouled Boubkar, toujours appartenant à la confédération des Mour, qui évolue sur cette partie du territoire. Donc on a quand même une forme d'organisation tribale qui existe, qui n'est pas officielle, mais qui se déploie dans le cadre de l'Algérie contemporaine. Alors, j'ai essayé aussi, comme je vous l'ai dit, de voir un petit peu quelle était l'influence justement de ces solidarités tribales dans la vie politique algérienne, et on se rend compte que au niveau local, les tribus ont un poids important. C'est-à-dire que quand on va par exemple à Asla, qui est la commune principale où évoluent les Oulad Sid Ahmed Mejdoub, la tribu religieuse, où il y a aussi des gens qui ne sont pas de la tribu qui y vivent, notamment ce qu'on appelle localement les Al-Asla, c'est-à-dire les gens originaires du Ksar, c'est-à-dire du village fortifié d'Asla, des gens d'origine berbère. Alors, on se rend compte qu'au niveau des élections, c'est tout le temps la tribu des Ouled Sid Ahmed Mejdoub qui place un de ses candidats en tant que maire. On n'a jamais eu de maire appartenant au Ksar d'Asla, donc appartenant à la minorité, parce qu'ils sont minorité d'origine berbère. Et on a même au sein de la tribu des Ouled Sid Ahmed Mejdoub une prépondérance pour une fraction qui est la fraction majoritaire, celle des Ouled Sidi Mohamed, où on a, bon, les noms ça veut peut-être pas grand, ça veut peut-être pas dire grand chose pour vous, mais bon, il faut bien nommer les choses. On a au sein de cette fraction une prépondérance, justement, le maire en tout cas, depuis l'indépendance et jusqu'à la période jusqu'à récemment, a toujours dans les phases électorales, parce qu'il y a eu aussi des périodes où il n'y a pas eu d'élection, a toujours appartenu à cette fraction-là. Alors récemment, ça a été perturbé depuis l'avènement du pluripartisme en Algérie, puisque on a dans le cadre du pluripartisme des formes de compétition avec des membres appartenant à différentes fractions pouvant intégrer différentes listes de différents partis. Et donc, par exemple, concrètement, à la dernière élection d'Asla, il y a eu une forme de segmentation des voix de la fraction majoritaire, les Ouled Sidi Mohamed, et c'est finalement quelqu'un appartenant à une autre fraction de la même tribu, mais une fraction qui n'était pas majoritaire, qui est passée. Donc, pour expliquer qu'il y a quand même, dans le contexte du pluripartisme, une forme de réévaluation des solidarités tribales dans la vie politique locale. Alors, on observe ça, un certain poids quand même de la tribu et des solidarités tribales dans la vie politique locale dans la région. À titre d'exemple, dans la région où on trouve des Ksour, donc c'est le pluriel de Ksar, des villages fortifiés, donc avec des gens d'origine berbères. On a, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun maire issu de Seksour, alors que si il n'y avait pas eu cette influence tribale, du point de vue des statistiques, la chance pour avoir un maire issu de cette minorité là se serait manifestée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des... J'ai travaillé aussi sur les élus nationaux provenant de cette région-là. Et là, on se rend compte que la tribu n'a plus beaucoup d'influence. C'est-à-dire que là, on passe par d'autres réseaux, donc des réseaux qui passent par les centres de pouvoir qu'étaient auparavant Saïda, c'est-à-dire la ville principale de cette région, et plus encore Alger, où les membres, en tout cas les têtes de liste des listes des grands partis sont cooptés à partir d'Alger et non pas à partir du centre, donc à partir des tribus. Alors, concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'au niveau des élections, on a ce qu'on appelle les différents gbar ou les shir des différentes fractions ou tribus qui sont sollicités pour mobiliser des voix pour des membres de leur tribu ou de leur fraction. Donc, on a vraiment un circuit qui se met en place à la veille des élections locales où ces notables de tribus sont sollicités. Et au niveau des élections, on voit que il y a cette influence tribale qui est encore présente, quoique depuis l'avènement du pluripartisme, qui est remis en cause. Alors, en dehors de cette influence justement des solidarités tribales dans la vie politique locale et nationale, on se rend compte que... alors moi je parle de tribus comme de champs sociaux semi-autonomes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces tribus, dans le cadre de l'État-nation algérien, fonctionnent aussi comme des champs sociaux élaborant des formes de règles pouvant prendre en compte celles du cadre étatique. Alors, pour être plus concret, on a par exemple dans la Confédération des Amour un système de réconciliation et de prix du sang, ce qu'on appelle la diya en arabe, qui existe depuis longtemps, mais qui a été formalisé sous sa forme actuelle depuis le début des années 1980, c'est-à-dire que chaque fraction de cette confédération tribale, alors chaque fraction ça veut dire il y en a 11 hein, dans cette confédération tribale, a deux responsables qu'on appelle localement les mas'houl, qui sont chargés de collecter la somme. Qui sont chargés de collecter la DIA. Alors la DIA, c'est une compensation pour homicide ou atteinte à l'intégrité physique, et ils sont chargés de collecter cette somme lorsqu'il y a par exemple un homicide suite principalement à un accident, donc les homicides involontaires, et chaque fraction donc contribue au prix du sang, c'est-à-dire que cette somme collectée sera versée à la famille de la victime pour qu'il y ait une réconciliation entre la famille de la victime et la famille du coupable. Donc dans les processus de réconciliation au niveau local, on a quand même une forme d'implication des fractions et pour justement arriver à une réconciliation, alors que parallèlement on a aussi le procès, qui se met en place au niveau des cours de justice, c'est-à-dire que quand il y a un homicide, dans le cas de coups et blessures, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte pour que l'affaire soit prise en compte par le tribunal, mais dans le cas d'homicide, la justice, en tout cas algérienne, se saisit obligatoirement de l'affaire. Et dans ces cas-là, on a ce système de réconciliation et de compensation au sein de la tribu qui fonctionne, mais parallèlement, on a le procès, au niveau de la Cour de justice, qui se met en place, et on a une forme de... On a ces deux systèmes qui fonctionnent parallèlement. Donc là, on est dans le cadre de ce que j'appelle un champ social semi-autonome, parce que la confédération tribale élabore la confédération tribale des Amour élabore, elle a élaboré un système de réconciliation, un système basé sur des représentants par faction et avec une compensation qui s'élève dans le cas d'un homicide involontaire à l'équivalent de 1 200 €, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une forme de contribution, en tout cas de compensation symbolique, qui va s'ajouter à la rétribution que la famille de la victime aura lors du procès qui aura lieu dans la cour de justice. Donc concrètement, il y a ce système-là qui existe. Donc on est dans une forme de système de règles internes à la fraction, à la confédération tribale. Et de l'autre côté, si on prend le cas par exemple des Zulati d'Ahmed Majdoub, on a depuis 1983 un réinvestissement de la Zawiya. Alors la Zawiya, c'est ce qu'on pourrait dire, pour être rapide, le monastère de l'ancêtre fondateur, et un réinvestissement de cette Zawiya et de la Kouba, c'est-à-dire du tombeau du saint fondateur. On a depuis 1983 un roulement dans la gare de cette Zawiya, c'est-à-dire que tous les 2 ans, chaque fraction nomme ce qu'on appelle un bouab, c'est-à-dire un homme de la porte, qui aura pour charge de garder la Zawiya. Donc on a comme ça un roulement, fraction après fraction, on a un représentant. Donc on a aussi, depuis le début des années 90, une association qui s'est créée, l'association de la Madrasa de Sidi Ahmed Majdoub, qui est devenue par la suite l'association de la Zawiya de Sidi Ahmed Majdoub, où on retrouve au sein même du bureau de cette association les principaux kbar, c'est-à-dire les principaux notables des différentes fractions de la tribu. Donc il y a une forme d'organisation qui existe aussi, une forme de règlement qui s'instaure avec la mise en place d'un bouab par fraction tous les 2 ans, un bureau pour l'association de la Zawiya où on reprend les principaux notables des tribus. Et puis il y a aussi, cette association est chargée d'organiser la Wahada, en tout cas la fête de Sidi Ahmed Majdoub, la fête de l'ancêtre fondateur qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Et ce qu'il y a d'intéressant au niveau de cette fête, c'est que on retrouve dans la configuration spatiale de la fête, tout autour de l'espace qui est réservé à la fête elle-même, les différentes tentes des différentes fractions de la tribu, et ces tentes sont vraiment organisées fraction par fraction. Donc on a aussi ce système-là qui existe encore de nos jours. Donc voilà, tout ça pour dire que si la tribu, elle a pas actuellement un rôle majeur au niveau de la vie nationale algérienne, elle a au niveau local, en tout cas dans la région des Monts d'Exour, un certain rôle. Elle fonctionne comme un champ social semi-autonome, c'est-à-dire comme un champ qui élabore des règles tout en prenant en compte celles du cadre étatique, en l'occurrence par exemple la compensation qui est d'environ 1 200 €, elle est normalement, la DIA en coutumière, elle est beaucoup plus importante, mais là on s'ajuste à la compensation qui va être donnée lors du procès. Donc il y a aussi ça. Et puis de l'autre côté, on reprend le cadre légué par l'administration, c'est-à-dire le cadre de l'association, pour faire vivre, ou en tout cas pour donner une certaine pérennité à l'organisation tribale. Donc voilà. Donc en gros, je ne sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que j'ai essayé de vous donner une présentation assez générale, j'espère pas trop précise ni trop générale quand même, de ce que représente une tribu, en tout cas ce qu'il en est de la tribu en Algérie à l'heure actuelle. Voilà, donc je ne sais pas si au niveau du temps,
vous pouvez continuer si vous souhaitez.
Parce que j'ai pas.
Ça fait une demi-heure.
Donc je ne sais pas à ce niveau-là. J'aurais plutôt tendance, plutôt envie de, parce que je ne sais pas quel est le public, quelles sont les attentes, d'avoir une sorte de retour pour préciser davantage le contenu de cet ouvrage et peut-être orienter ma présentation de manière à ce que ça vous convienne également.
Bien, merci Yazid de cette présentation synthétique et très, très ouverte en même temps. On va pouvoir passer la parole à la salle, on va pouvoir profiter d'un temps de débat important. Moi j'aimerais quand même essayer de commencer à poser une question, je m'octroie ce privilège, sur l'aspect contemporain de ce dossier. À un moment dans votre livre, vous montrez que la tribu renvoie à des liens de solidarité primaire dont vous dites qu'ils sont quelque part, ou dont vous laissez suggérer qu'ils sont réactivés actuellement ou qu'ils ont été réactivés par la guerre civile dans les années 90. Alors en termes historiques et sociaux, peut-être vous pouvez préciser un petit peu les choses de ce point de vue là et puis bien sûr la salle est tout à fait invitée à poser toutes les questions qu'elle souhaite.
Oui, alors je parle pas de la guerre civile déjà, il faut préciser une chose. Je définis la décennie 90 comme une décennie noire, sans parler de guerre civile, parce que, de mon point de vue, ça n'en est pas vraiment une. Mais c'est vrai que cette période a été propice à une forme de réactivation des liens de solidarité tribale. Il y a des caisses par fraction qui ont été créées à cette période. Par exemple, la fraction des Zouled Aliyat, qui appartient à la tribu des Swala, plus globalement à la Confédération d'Ermour, a créé à la fin des années, non, je crois que c'est en 96 ou 97, je n'ai pas la date exacte, mais une caisse c'est-à-dire que tous les membres de la fraction cotisent à cette caisse pour prendre en charge les personnes accidentées ou malades. Donc il y a eu une certaine, je crois, dans la décennie 90, un certain retour vers ces solidarités-là, parce qu'on était dans un contexte aussi de peur et un contexte aussi relativement dangereux. Donc, quoique cette région a été assez préservée, il y a eu un attentat qui a été perpétré. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la maison où j'ai habité, c'est celle où ont habité les personnes qui ont commandité cet attentat. Donc, je l'ai su que quelques mois après, mais bon, je me suis installé là-bas en 2002 et l'attentat avait eu lieu en 95, je crois. Donc, du temps s'était écoulé depuis. Donc, voilà. Après, oui, c'est vrai que cette période a été propice à ça. Après, bon, il y a une partie que j'ai pas développée là. Mais peut-être qu'on peut la faire, j'y repense, j'avais noté ça et puis j'ai oublié de développer cet aspect-là. C'est justement sur le concept de tribu. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont moins intéressés par l'Algérie que par l'anthropologie elle-même. Il y avait aussi dans le travail que j'ai développé une volonté de disséquer un petit peu ce concept classique de l'anthropologie et bon. J'aime bien cette définition de Maurice Godelier qui dit « Appartenir à une ethnie vous donne une identité culturelle et une langue, mais ne vous donne ni femme ni pain, c'est une tribu qui vous la donne. » Donc, qui vous les donne plutôt. Donc voilà, pour définir assez rapidement, je trouve qu'elle est cette définition elle est très juste, mais ce qu'il est vrai, c'est que le concept de tribu a été un petit peu depuis le début de l'anthropologie, un concept classique, largement investi, et qu'il y a eu différentes conceptions quant à ce concept-là. Et moi, j'ai voulu revenir justement sur ce thème-là, parce qu'il s'imposait en Algérie, mais aussi parce qu'il permettait de repenser le travail anthropologique, plus largement. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu, parce que le concept était considéré comme classique, le jeter alors qu'il s'imposait sur le terrain, j'ai voulu au contraire voir ce qu'on pouvait en faire. Il est vrai que c'est pour ça que j'ai développé un petit peu une réflexion sur l'idée de tribu comme champ social semi-autonome, avec l'idée que La tribu, c'est plus la tribu telle qu'on la concevait auparavant, c'est-à-dire soit une forme d'organisation sociale correspondant plus ou moins à la période du néolithique, donc avec une économie fondée principalement sur l'agriculture et l'élevage. J'ai pas considéré la tribu comme une forme de société segmentaire dans le cadre des sociétés sans État. J'ai pas non plus considéré la tribu comme un stade de développement, mais comme une forme d'organisation sociale qui nous est contemporaine, mais qui fonctionne comme un champ social semi-autonome, c'est-à-dire pouvant intégrer à la fois les règles de l'État et s'inscrivant assez facilement en son sein. Merci.